Croyez-moi, vous en êtes un.
J'en suis un ?
Oh oui, et un beau.
Mais vous êtes fou !
Vous écoutez les entonnoirs.
Vous écoutez les entonnoirs.
Si vous êtes normal, vous n'avez rien à foutre ici. C'est évident.
Si tu peux voir ce qui n'existe pas, conçois dès lors que tu peux ne pas voir ce qui existe.
C'est fou. C'est pas bien normal. Il n'est pas comme nous.
Les anormaux, quoi. Les anormaux.
Les entonnoirs.
Si je te disais que j'ai la vague impression d'effectuer un pétage de plomb au niveau de ma personne.
Normal.
J'ai un coup de gueule à passer.
Mais fake quoi, on fait notre émission de radio et
ouais,
on dit quoi.
Alors ça c'est très tordu mais bougrement intelligent.
Vous écoutez les entonnoirs.
Vous écoutez les entonnoirs.
Vous écoutez les entonnoirs.
Vous écoutez les entonnoirs.
Non mais c'était dingo là.
Il faudrait construire des asiles de cons et vous imaginez un peu la taille des bâtiments.
En se posant des questions.
Avec tout ça derrière, il va péter un chaud.
Oui, bonjour, voici la 250e émission des Entonnoirs, animée par Tahar et Salima. Bien, nous allons commencer par le carnaval de Roubaix, dont Nicolas Daquin va nous en parler. Nous allons enchaîner avec la musique de Roger Lucien. Ensuite, l'actualité, le point de vue de Bruno, les élections présidentielles et longtemps Afghanistan de Johan. Ensuite à Spirale, les poèmes de Bruno à Une belle rousse et de Margot La vie et l'humour de Mohamed.
Ensuite nous aurons la météo de Bruno, une musique de Margot dont l'auteur est Cyndi Lauper qui nous chantera Time After Time. Et puis une discussion sur la semaine de la santé mentale et puis une rubrique de Florent Neuilly. Sa mère.
Voilà, donc...
Donc nous allons laisser la place à Nicolas Daquin qui est venu nous parler du carnaval de Roubaix. À toi, Nicolas.
Alors, donc moi, je travaille à l'association Le Camion, vous connaissez, puisque vous avez fait une émission chez nous.
Non.
On s'en rappelle. Vous vous en rappelez?
Oui.
C'était sympa. Donc nous, cette année, c'est la mairie de Roubaix nous a demandé de faire un char et de trouver un thème pour le carnaval de Roubaix cette année. Un thème qui tourne autour du vélo. Alors il y a 2 ans, c'était la petite reine, on avait fait un carrosse, enfin c'est pas nous, mais il y a eu un carrosse. L'année dernière, c'était l'enfer du Nord, donc on avait fait des... Il y avait eu des diables, des choses comme ça. Mm-hmm. Donc cette année, c'est nous qui choisissons le thème, et c'est chez nous que va se faire un char. Mm-hmm. Alors le thème, c'est un petit vélo dans la tête. Voilà. Donc nous, comme je connais très bien Bruno, qu'on participe beaucoup à des scènes ouvertes de poésie, quand je l'ai rencontré hier, je lui ai demandé, ça serait bien que les entonnoirs participent au carnaval avec nous. Donc moi, je suis chargé par l'association Le Camion de vous inviter officiellement à défiler avec nous le samedi 7 avril. On procure les déguisements, ou vous viendrez, vous voyez. On a des beaux entonnoirs tout beaux, voilà, autour d'une grosse tête avec un entonnoir géant. Et on est sponsorisé en même temps par une association qui s'appelle Les Vélos Bernard. On a fait une petite chanson là d'ailleurs qui s'appelle Les Vélos Bernard. On est tous fous, on est tous Bernard. Non mais on aimerait que le carnaval de Roubaix ça soit vraiment une vraie belle fête, mm-hmm. Que ça soit la folie douce. Et puis donc nous on vous invite vraiment à participer. Et plus on est de fous, plus on rit. Voilà.
D'accord. Bon. Ben on vous remercie tous.
Juste 7 avril.
Vous êtes d'accord les entonnoirs?
On sera au rendez-vous. Hein.
Ouais. Pas de problème.
Ben, merci beaucoup.
Merci Nicolas Daquin. Nous allons passer à la suite, Salima.
Excusez-moi, oui, la musique de Roger Lucien. Excuse-moi, Roger Lucien.
C'est pas grave, Salima. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, prenons la direction des États-Unis. Nous allons écouter un artiste qui nous a sorti un excellent morceau vers le début des années 70. Il s'agit de Isaac Hayes. Il nous interprète Them From Shaft. Thank you.
just a sex machine to all the chicks. You're damn right. The man that would risk his neck for his brother, man. Can you dig it? Who's the cat that won't cop out when there's danger all about? Right on. You see, this cat Chef is a bad mother.
Shut your mouth.
What I'm talking about, Chef?
Then we can do it.
He's a complicated man, but no one understands him but his woman.
John Chef.
J'aurais une remarque par rapport à la musique de Roger Lucien, c'est par rapport à ces années 70, où d'un côté il y avait la musique noire américaine, de l'autre côté la musique blanche. C'est une certaine communautarisation. Et j'ai remarqué qu'avec le disco, et notamment des artistes comme Donna Summer, puis plus tard avec un artiste
Marvin Gaye.
Barry White.
Michael Jackson. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est pas ça le problème. Mais au moins, il y a une chose positive, c'est que Michael Jackson était autant destiné au public blanc qu'au public noir. Enfin, je trouve quoi. Et ça a été un énorme progrès pour l'Amérique, et ce qui a fait que l'Amérique s'en est sortie par rapport à ça. Et c'est pour ça, grâce à Cultura au départ, et au sport aussi, que l'Amérique a pu élire un président noir, métis, quoi. Voilà.
Ouais, c'est vrai ce que tu dis, Bruno. Et c'est, tout est là, le nœud est là.
Et puis j'irai même plus loin par rapport au cinéma. Il y a même eu en 84, sous Reagan, grand libéral, mais pas facho, antiraciste. Bah, il y a eu du antiracisme. La preuve, c'est qu'il y a eu La couleur pourpre du Caire, un film, je crois, d'un grand metteur en scène qui faisait des films comme qui a fait E.T. par exemple. Je sais pas comment il s'appelle.
Steven Spielberg.
Pardon?
Steven Spielberg.
Oui, qui parlait avec des héros noirs quoi, africains et américains quoi, qui parlait justement du retour des noirs américains en Afrique. Enfin, donc, et ça, c'était novateur aux États-Unis, quoi.
Johan.
Ben, moi, écoutez, je connais très bien Isaac Hayes, c'est ça? Moi, je l'appelle Zaza, qui m'appelle Yo-Yo. Et il m'a dit, la dernière fois, il a écouté Les Entonnoirs, il m'a dit, les gars, vous êtes trop intello. Sur un morceau de musique, vous partez dans l'intellectuosité.
C'est pas que c'est intello, j'ai loin d'avoir une réflexion par rapport à la culture, enfin.
Mais c'est très bien. Mais comme on a déjà beaucoup parlé, je propose qu'on passe à la suite. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, c'est un morceau que j'apprécie.
Donc nous allons passer aux actualités. Bruno, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce climat des élections présidentielles, si tu veux bien?
Oui, je vais être original dans le sens où je vais le replacer dans la mondialisation.
Dans le sens. Alors, si je peux me permettre, je vous coupe avant pour pas vous couper après. Essayez d'aller très lentement parce que moi en fait quand je vous écoute j'ai beaucoup de mal à suivre tous les enchaînements.
D'accord. Donc je vais aller très lentement. Je suis de Genève donc Genevois voilà quoi. Parce qu'il y a un grand écrivain qui s'appelle Maurice Genevois, logique. Et par rapport à ça je tiendrai à dire que dans la mondialisation il y a une crise du néolibéralisme et de son aspect autoritaire. Et il y a un vent de démocratie qui souffle à travers le monde, ça se voit dans les révolutions du monde arabe, et les dictateurs ou les méthodes dictatoriales tombent. un peu partout. Ça vient progressivement, mais ça devient bon un peu à la fois. Bon, même Poutine, il recule par rapport à ça. Bon, ça voilà quoi. Et par rapport à ça, Sarkozy, lui aussi, il voulait employer les méthodes dictatoriales, il est obligé de reculer. Et à noter que par rapport à ça, le spectacle qu'il nous propose à la télévision, Sarkozy, c'est sur du signe quoi. C'est un spectacle où il dit au revoir tout le monde quoi. Mais on sait très bien que c'est finalement Hollande qui va l'emporter. Pourquoi? Parce que je crois que suite à cette crise du capitalisme mondial, les marxistes de type nouveau ne sont pas au point. Bah non, il n'y a qu'à voir l'extrême gauche en France, quoi. Poutou, il fait 1%, c'est de leur faute parce qu'ils n'ont rien à proposer. Et je crois que par rapport à ça, il y a une espèce d'étape intermédiaire qui fait que, notamment poussée par l'Amérique, qui dit un voie démocratique sain. Libéral, certes, mais sain dans le sens où toutes les opinions ont le droit de coexister et de débattre. Et ce sera l'étape intermédiaire peut-être vers une remise en cause du système. Voilà.
Johan.
Je vais te suivre sur... tu donnes ton point de vue sur Sarkozy, moi je vais donner le mien. En fait, moi j'ai décidé cette année de pas suivre l'élection présidentielle parce que généralement les élections présidentielles ça me rend malade. Je suis tombé malade en 2005 sur le traité constitutionnel européen, référendum. Je suis tombé malade en 2008 après un an de Sarkozy. Enfin, je suis très sensible au niveau de ma pathologie, ce qui se passe au niveau politique. Et moi j'ai l'impression que déjà de une on nous prend pour des cons et de deux qu'on utilise des grands mots qui sont vides de sens. Au début de l'entrée en campagne de Sarkozy, il y avait qu'un mot à ce book, c'est un référendum. Il a quand même fait passer le traité de Lisbonne, qui avait été rejeté par les Français en disant que c'était un traité simplifié, et il l'a fait passer au Parlement alors qu'il avait l'occasion, pour ne pas faire un déni de démocratie, de faire un référendum. Et tout est à l'avenant, quoi. Je veux dire, il utilise des mots, c'est vide de sens. Je veux dire, on est en train de se... Faut se rappeler quand même, en 2007, le gars, il voulait le plein emploi, il voulait plus de SDF en 2 ans. Ils allaient raser gratis quoi. Et là, ça recommence, c'est le même système quoi. Et ça marche. Pourquoi ça marche? Moi, mon point de vue, c'est que les médias sont des complices du fascisme néolibéral et du capitalisme pourrissant. Et que si on fait pas quelque chose contre ces médias, on pourrira avec eux. Le pape pousse, siffle 3 fois.
Mais par rapport à ça, je crois que quand même, j'ai l'impression qu'il y a des aspects juste de ce que tu dis, notamment par rapport au référendum, par rapport à la critique de Sarkozy. C'est évident, il se contredit, enfin c'est une contradiction lui-même, ce personnage. Mais le problème, c'est pour ça qu'il est grotesque. Mais le problème, c'est que ce que tu ne vois pas, Johan, c'est qu'il y a un front idéologique. Il y a une guerre idéologique très forte. Et que je sens que le bon front est en train de gagner. Bon, un front d'un côté religieux, avec des connotations religieuses du passé et machiste, d'un côté, et de l'autre côté un front féministe et plus démocratique de l'autre. Bon, et moi j'ai choisi le front démocratique et plus, voilà quoi. Et c'est pour ça que va arriver notamment un vent d'idées féministes, voilà.
Et je voulais savoir, est-ce que tu as entendu parler des propositions de Nicolas Sarkozy hier lors de son meeting à Villepinte, non?
Mais
est-ce que tu as entendu parler au niveau de l'immigration, au niveau de la parité musulman et non musulman, c'est-à-dire que les hommes comme les femmes auraient les mêmes horaires à la piscine, par exemple? On reviendrait sur les accords de Schengen à cause de l'immigration. Enfin, qu'est-ce que t'en penses?
Oui. Moi, je pense que ce que tu dis, c'est pas les problèmes principaux de la France à l'heure actuelle. Je pense que là, tu parlais des horaires à la piscine. Est-ce que tu peux répéter ce que tu disais?
Ah, les horaires à la piscine, ils ont parlé.
Voilà, mais ça, c'est encore une stigmatisation de l'islam, si je me trompe pas. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Je pense qu'à un moment, les Français, leur problème principal, moi, j'habite à Roubaix, mon problème principal, c'est pas l'islam. Moi, l'islam, c'est mes amis, tu vois. Mon problème principal, c'est le pouvoir d'achat. C'est les médias comme TF1, France 2, Pujadas, tout ça, qui racontent que de la propagande du gouvernement. Moi, c'est le fait que j'ai pas de travail, par exemple, que je cherche un travail, que je vois des potes qui sont dans la misère, dans l'isolement, qu'il n'y a plus de moyens dans les hôpitaux. J'ai vu la France se détruire en 5 ans. Mais j'arrive pas à croire que c'est la faute de l'islam et de la crise. Parce que moi, je pense que la crise, elle a été fabriquée par les marchés financiers. Et je pense qu'il agite des foulards. Et c'est des faux problèmes. Et ça permet accuser l'islam, tu vois. C'est en général avec la viande halal, je suis désolé, c'est ça. Accuser l'islam, ça permet de donner un bouc émissaire et de pas voir la, le côté coupable du gouvernement sarkozyste UMP de néolibéraliste dans sa gestion du pays. C'est, on, c'est pour pas qu'on voit ses erreurs.
Moi, je voulais jouer.
La parole est à Jérôme.
Ouais, est-ce que les uns les autres, vous avez vu le film Le Nouveau Chien de Garde? Je crois que c'est ça, j'en avais parlé. Hein.
Oui, oui.
Il faut voir ce film, il faut aller le voir. Parce que sachez que, en fait, les canards, pas le canard enchaîné, les canards, les journaux, les télés sont détenus par le pouvoir. Donc forcément, c'est impossible. La démocratie est faussée au moment où on reçoit l'information, parce que l'information est triée. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire et d'autres qu'on dit qui sont fausses.
Je voudrais terminer en disant que finalement, moi, j'ai fait un poème qui s'appelle Pour un FN halal, et j'ai fait aussi un poème qui s'appelle Super Cacher par rapport à leur connerie, parce que faut prendre ça par l'humour et on les aura par l'humour.
Voilà. Juste pour préciser, pour rebondir ce que tu disais, Jérôme, Les Nouveaux Chiens de Garde, c'est un documentaire de Gilles Balbastre.
Ouais.
Qu'on avait reçu sur Radio Boomerang, enfin que j'avais reçu sur Radio Boomerang,
ouais.
Pour un documentaire qu'il avait fait sur EDF, les apprentis sorciers. Je pense que c'est important de dire que c'était Gilles Balbast pour que les gens puissent savoir. Et là, je propose qu'on passe au deuxième sujet. Et le deuxième sujet, c'est
mais
moi.
Il faut voir ce film, c'est fini, c'est dommage. Il passe plus.
Mais il va sortir
il va
sur Internet.
Johan, tu vas nous.
Tout le monde le voit.
Johan, tu vas nous parler de l'OTAN et de l'Afghanistan. Quoi.
Alors, moi, j'ai un problème. Moi j'ai cru hein, franchement quand Obama a été élu, j'ai trouvé que c'était magnifique. McCain, il s'appelait le gars. Enfin c'était une patate, j'ai envie de dire.
Le mec aux États-Unis.
J'étais content quand McCain. Barack Obama a été élu. Franchement j'ai dit c'est bien et tout, c'est un symbole fort. Et le mec qui va faire le changement tout ça. Mais ce que j'ai vu dans les médias, et ce que je vois souvent dans les médias, c'est des informations qui ne me plaisent pas concernant les États-Unis et l'OTAN. Et là c'est un truc qui s'est passé. C'est un soldat de l'OTAN en Afghanistan qui était dans sa base et le mec il s'est dit bon je vais sortir de ma base et je vais aller buter 16 civils afghans. Et le mec il est sorti de sa base, il a buté 16 civils afghans. Et là je me dis il y a un problème quoi, le mec c'est un militaire et il va buter 16 civils qui ont rien fait quoi. Et après je me dis quand tu penses à l'Iran et la Syrie quoi, tu te dis c'est quoi, ils vont envoyer l'OTAN et ça va être quoi, ça va être les gars, ils vont péter les plombs comme ça, comme dans le film là, Apocalypse Now, où le mec il bute son adjudant, tu vois. Et moi, ce qui ça me fait dire, c'est que l'Afghanistan, c'est peut-être qu'il fallait les attaquer parce que c'était Ben Laden, parce que c'était les attentats du 11 septembre. Mais à un moment, je pense que la guerre n'est jamais la solution et que la guerre entraîne que de la peur et de la rancœur et qu'on n'arrivera jamais à rien avec des gouvernants, des dirigeants, va-t'en guerre.
Jérôme. T'as raison, mais tu sais le mec qui a le bidasse qui a fait ça, je le plains lui aussi. Hein. Et à plein de pourquoi ? Parce que en fait, on fait des armes, tout ça, c'est les guerres que mènent les États-Unis sont des guerres expérimentales. Ils mettent au point l'agent orange au Vietnam. On en meurt encore aujourd'hui dans les rizières au Vietnam. C'est très grave. Ils veulent être les maîtres. Ils emploient des moyens qui sont interdits par les conditions
L'agent orange, ça a été créé par une boîte qui à l'époque, ça s'appelait peut-être pas comme ça, mais qui est devenue Monsanto, qui maintenant fait du maïs OGM, chimique.
Ouais.
Et moi, ce que j'ai envie de dire, hein, et je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais c'est mon point de vue. Moi, je suis vraiment habité que de bonnes intentions. Je souhaite le bien de tout le monde, de toutes les religions, entre guillemets, toutes les races. Moi, je veux le bonheur pour tout le monde. Mais pour moi, c'est un point de vue personnel qui n'engage que moi, pour moi le plus grand danger qu'on a sur la planète à l'heure actuelle, c'est les États-Unis d'Amérique. Mmh. Mais je sais que vous n'êtes pas d'accord vous deux, c'est pour ça que je vous dis que je vous taquinerai en faisant mon truc. Mais ça n'engage que moi quoi, et c'est peut-être que j'ai faux, j'admets que j'ai peut-être pas la vérité.
Je suis pas d'accord moi.
Racine.
Non, moi je voulais dire justement, j'ai vu l'information ce matin aux infos hein, sur ce militaire qui a tué, déjà il doit pas être bien dans sa tête hein, pour sortir tout seul et tuer 17 personnes, mais aux États-Unis, je pense que c'est quand même assez assez récurrent, ne serait-ce dans les lycées et tout ça. C'est quand même, y a quand même une violence dans cette société, hein. Même si Bruno, il y a plein d'exemples à prendre, mais il y a quand même aussi le Ku Klux Klan. Donc, faut quand même, c'est quand même une société violente qui est pas celle de, qui est pas la France. Moi, je suis né en France, même si je m'appelle Rachid, je suis né en France. Et une société violente comme ça, ça me ferait peur. Ce qui se passe dans nos banlieues, c'est de la rigolade. Et puis, faut savoir que par la violence, on crée quand même de la violence. Et puis, et après, il y a forcément des réactions. Là, les 17 personnes qui ont perdu quelqu'un, pour moi, c'est le bout du monde, l'Afghanistan. Mais je pense qu'on a fait des terroristes, quoi. Le premier Américain qu'ils vont voir, ils vont vouloir se faire exploser. Et puis, donc, il faut faire attention quand on stigmatise des populations, quand on... Parce que c'est ce qui est fait quand même. Et c'est quand même un peuple violent. C'est quand même un peuple qui est en guerre, qui a été au Vietnam, qui a fait de nombreuses guerres. C'est quand même un peuple guerrier. Je veux pas mettre tout le monde dans le même chapeau, mais c'est quand même un peuple guerrier. Donc il faut pas non plus les mettre dans les pacifistes à outrance, parce qu'ils sont quand même engagés dans de nombreuses guerres, que ce soit en Afghanistan, dans plein d'autres lieux.
En Irak?
Comme à Cuba une époque, comme dans plusieurs,
en Irak
aussi. Ils sont quand même présents dans beaucoup de conflits, donc il faut quand même faire attention. C'est pas notre culture.
Je voulais juste faire une précision quand je dis que les États-Unis sont le plus grand danger. Bien entendu, je ne parle pas du peuple américain, je parle des dirigeants américains. C'est très, très important.
Je suis d'accord, moi.
Ce truc est né en moi quand j'ai vu George Bush, président des États-Unis. Et Barack Obama m'a pas convaincu.
Je suis pas d'accord, moi.
Je crois qu'on a clos ce débat et nous allons.
En tout cas,
Florent,
vas-y.
Je suis pas d'accord parce que les Barack Obama, il aurait tué ses troupes d'Afghanistan ou d'Irak, je sais plus quoi, puis c'est pas un... voilà quoi.
Tu dis Barack Obama a retiré ses troupes d'Afghanistan. S'il avait retiré ses troupes d'Afghanistan, il y aurait pas un soldat qui aurait été buté 16 ans avant, tu vois.
Moins dangereux que Bush.
Mais ce que je veux dire, c'est que sincèrement, j'ai pas la vérité, je me trompe sûrement, mais c'est ma vision du monde qui est peut-être faussée. Faut pas oublier que je suis psychotique à la base. En 2005, je suis devenu psychotique. Mais c'est ce que je ressens, et moi, je suis animé que par le bien, et pour moi, ça me paraît pas être le bien. Même si c'est très con de faire, d'être manichéen comme ça, le bien, le mal. Mais ça me fait à la limite, c'est peut-être ça qui m'a rendu malade avec le recul, c'est ce que je me dis. Alors, ce sera le mot de la fin sur ce sujet, mais Jérôme, garde la parole, parce qu'on passe à la spirale
de Jérôme.
Peace and love.
Allez-y.
Vas-y, Jérôme.
La spirale. Le disque, cet objet circulaire, comprend une spirale. La spirale tourne dans la platine, mais elle tourne aussi dans les têtes. Voilà, super. Je suis content de vous retrouver, chers auditeurs, auditrices, sur Radio Boomerang, les entonnoirs. À chaque fois, j'essaie de vous passer un bon petit morceau avec François. François, il vous en parlera de son morceau après. Mais pour l'instant, je passe en face A. François fera la face B. La face A, c'est Herbie Hancock. Le titre est inconnu. Alors, si quelqu'un reconnaît le morceau, il appelle Radio Boomerang ou les entonnoirs. Nous avons un numéro de téléphone, nous sommes sur Internet. C'est Herbie Hancock, c'est du jazz. Et surtout, enlevez vos godasses et savourez tranquillement le morceau. Vas-y, Ahmed. Thank you. Voilà, c'était Herbie Hancock, claviériste, pianiste au départ. Et après, il s'est acheté des petites machines genre synthétiseur vachement bien, quoi. Il a investi dans, et voilà. C'est du jazz, jazz rock, jazz, modern jazz, on va dire, modern jazz. Et c'est le morceau qui s'appelle 4 AM. C'est Guillaume qui a détecté le morceau, parce que Guillaume a une oreille électronique intégrée. Et il trouve le titre, c'est 4 AM, c'est-à-dire 4 heures du matin. 4 AM. Merci, Guillaume. Et maintenant, François, c'est à toi, la phase B.
Et ben voilà, moi je vais vous proposer un morceau que tout le monde connaît, c'est Le Déserteur de Boris Vian, mais cette fois-ci chanté par Mouloudji.
Ah, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Et les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Mais le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Moi, je t'aimais, toi, tu m'aimais, et nous vivions tous deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs, les regrets aussi. Mais mon amour silencieux et fidèle sourit toujours et remercie la vie. Je t'aimais tant, tu étais si jolie. Comment veux-tu que je t'oublie? En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Tu étais ma plus douce amie, mais je n'ai que faire des regrets. Et la chanson que tu chantais toujours, je l'entendrai. C'est une chanson qui nous ressemble. Moi, je t'aimais, toi, tu m'aimais, et nous vivions tous deux ensemble. Toi qui m'aimais, à moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis.
Les entonnoirs.
Alors voilà, c'était la version de Mouloudji de Monsieur le Président, le déserteur de Boris Vian.
Je crois, en parlant du déserteur, qu'il y a deux versions à la fin où il dit « je tirerai sur le, si vos hommes viennent et je tirerai ». Enfin, il y a une histoire de version qui était changée.
C'était la toute première version de Boris Vian qui l'a changée tout de suite et qui a jamais quasiment été diffusée.
D'accord. Donc nous allons passer à la suite maintenant avec le poème de Bruno qui s'intitule « Une belle rousse ».
Oui, c'est un vieux poème qui se trouve dans mon site, mon blog http://lonesonmao.skyrock.com. C'est le premier poème qu'il y a tout de suite. Et je l'ai recorrigé et il s'appelle « À une belle rousse ». Vous m'étourdissez, ma demoiselle, à lancer de la sorte des tarentelles, de vos doigts fins comme des lamelles, d'un bois rare au coloris de votre rimel. Au plaisant toucher de votre corps aux joies innées, parfumé d'une chevelure baignée de henné, vous êtes une quintessence qui renaît dans le baiser inavoué d'un pionnier. Je m'enivre de vos taches de rousseur, éparpillées discrètes sur votre minceur, crémeuse, onctueuse de blancheur, d'une neige qui dégage tant de chaleur. Vous vous levez, est-ce pour aller rêver, dans l'accalmie de la grandeur du vrai, de vos petits seins pointus tels des vées, vous bougez, votre beauté ne doit pas s'énerver. Votre charme ne versera pas de larmes, il n'éveillera qu'une merveilleuse alarme. Dans vos postures, vous ressemblez à une sirène, à une émulation de la jouissance sereine. Vous vous élancez, mademoiselle, et dansez nu une tarentelle. Que de grâce s'amoncelle, que de grâce me harcèle.
C'est très romantique,
c'est beau, c'est romantique.
Bravo,
ouais. C'est étonnant que tu dises ça parce que c'est plutôt c'est une approche sensualiste quand même.
Ouais.
Et maintenant nous allons passer au poème de Margot qui s'intitule La vie.
Donc, la vie, une essence qui nous fait surmonter les épreuves de chaque instant. Pourquoi une vie si courte? On a tellement de choses à faire, voire encore aujourd'hui. Des hommes et des femmes se battent pour survivre dans un monde si ingrat envers les humains. La politique ne résout rien pour ces gens SDF ou autres individus. Si le monde était à refaire, je ne voudrais plus de malheureux, que nous soyons égal à égal entre riches et pauvres, cédés. Voilà mon espoir d'une vie.
Merci, bravo. Bravo Margot.
J'ai une réflexion plus ou moins philosophique par rapport au fait que le candidat Hollande a voulu perdre du poids à tout prix. Vous savez pourquoi il a voulu perdre du poids? Parce que politiquement, il ne voulait pas être ingrat.
Ah. Et maintenant, nous allons passer à un petit peu d'humour avec Mohamed. C'est à toi.
Bonjour. L'étudiante. C'est l'étudiante qui persiste dans ses études. Comme une bombe à retardement, il faudra que ça explose un jour. Oui, mais le reste de l'entourage est là. Le père, les amis, les sociaux, on dirait qu'ils sont jaloux. Ils la guettent comme si nulle elle. Elle n'est pas mal. Elle veut conquérir le monde. Ils veulent la rendre impossible. Ils lui proposent de la fête en fête. Elle ne veut pas céder à ce qu'elle fait. Elle se fait entraîner dans des histoires bien pas trop mal, mais elle dépasse ses limites. Elle est séduite par des jeux faciles. On lui claque qu'elle ferait mieux de se relâcher et qu'elle arrête d'étudier jusqu'à 2h du mat. Viens avec nous, chérie. On va te faire oublier le stress du langage. Une bourrée bien arrosée. Le cas social lui dit « Viens que je te prends d'abord dans mes bras, après on verra ». Elle lui réplique « Rien à voir Jojo, on n'est pas de la même hauteur. T'as l'échelle bas et moi de la règle haute. Elle carbure en note, rien que de la note 17, ma parole, même les profs lui disant, pour rire, vas-y mollo. Appuie-moi sur la pédale, on est là. Mais cette petite, j'en conclue, une craque d'études. On est sur elle sans cesse, soit elle veut des études, non, elle s'aventure dans d'autres idées de confusion, beaucoup de musique et de jeux. Un avocat lui propose sa main, elle décide, non, elle sait plus. Elle voit la vie en rose, en changement d'idée, elle va dans des fêtes, elle se fait rejoindre par des séducteurs de tout genre, des électriciens, des maçons, c'est de la dynamite. Après ça, la Vénarde, avec son doctorat, devinez, elle s'est tapée un maçon, une folerie amoureuse.
Bravo. Bravo, ma mère. Et maintenant, chers auditeurs, chères auditrices, voici la rubrique météo de Bruno. À toi, Bruno.
Bonjour. Vous vous présentez la météo de vendredi. Beau temps, ensoleillé. Prévoyez une tenue légère. 9 degrés le matin, 14 degrés l'après-midi. Pour samedi, même temps avec un peu plus de nuages, mais température de printemps, 9 degrés le matin, 15 degrés l'après-midi. Promenez-vous, il fera beau. Ce sera
bien. Merci Bruno.
Merci Bruno.
Alors maintenant, nous allons laisser place à une page musicale de Margot qui va nous parler de Cyndi Lauper de Time After Time.
Oui, voilà donc ce que je vais parler de Cyndi Lauper qui a débuté sa carrière en 1984 avec son titre Girls Want the Fun. C'était son premier succès. Donc nous allons écouter ce titre aussi qui est de la même année, Time After Time. Nous allons continuer avec Florent Neuilly sa mère.
Voilà, tout à fait. En fait, c'est un film français que j'ai vu il y a ça 3 semaines, là, le week-end de dimanche, il y a ça 3 semaines à la télé. Donc il est sorti en les salles en 2009. D'ailleurs, Yohan, on en a parlé la dernière fois. T'as trouvé ça bien?
Je l'avais.
Cinéma?
Je l'avais vu dans les salles.
Ah, ça, alors, l'acteur principal est Sami Seghir, et dans le, il a un, c'est le, il y a une homonymie par rapport à son personnage, parce que son personnage s'appelle Sami aussi, donc il a le même nom que l'acteur en question. Ensuite, il y a Rachida Brakni qui joue le rôle de sa mère, et Jérémy Denisti qui joue le rôle de Charles, qui va au fil du temps devenir son ami malgré les tensions. Parce que initialement au début le petit Sami avait de bonnes notes dans le public, et ça pour qu'il travaille encore plus, il foutait un peu rien, donc sa mère a décidé de le mettre en internat dans le privé. Il est vite provoqué par des racailles comme ça, des loups barbourges dans l'école, dans la cour, il se fait agresser et tout. Donc dans un piège, il dit ouais, voici j'en joue le cochon comme toi, et après il pose des cris de cochon pour se moquer de lui, et puis il y a une bagarre, il prend un coup de tête et il tombe par terre, etc. etc. Et donc par la suite, Charles, qui l'héberge, c'est le premier de la classe, qui veut être des classes, et qui aspirait à devenir président de la République, donc celui-là l'héberge. Et donc ça se finit bien, parce qu'il devient complètement antiraciste malgré la tension qu'il y avait entre les deux personnages au début. Leur amitié a pris tournure de au fur et à mesure comme ça. Et ensuite ce Charles, celui qui a le second rôle, il va dans les cités un peu comme ça, un peu dans les cités, et il apprend à se faire connaître par les gens de couleur, et en fait il devient plus raciste à la fin, il est plus raciste quoi. Et il finit par être avec une fille du lycée aussi, du collège, voilà.
Johan,
ça fait un peu 2 minutes que j'attends, je dois lever.
Vas-y, dis-moi.
C'était pour te poser une question, pour te relancer dans ton truc. Tu parles de tension entre Charles et Sami, mais t'as pas expliqué la cause de la tension. Et est-ce que tu peux est-ce que tu peux nous décrire, c'est précis ce que je te demande, la chambre de Charles quand Sami arrive dans la maison des Bourges, en fait, à Neuilly.
On voit pas la chambre en elle-même, on voit plutôt le salon.
Non, on voit la chambre, et il y a des choses précises sur les murs de la chambre de Charles. Un gamin de 13 ans.
Des posters, non?
Des posters, mais des posters de qui?
De un président.
De Chirac, de Sarkozy.
C'est ça, de mémoire, ça, je crois.
Des gros posters UMP.
Je me rappelle maintenant. Et c'est lui qui aspirait à devenir président, mais il n'y a pas réussi. Il a peut-être réussi. Ouais.
Et c'est ça qui est drôle.
Jérémy Denisti,
c'est ça qui est drôle.
Vas-y, à toi, Rachida.
Ça t'a fait rire, Florent? C'est une comédie. Est-ce que ça t'a fait rire?
Plutôt, mais en tout cas, c'est pour dire que qu'on soit blanc, noir, jaune, vert et tout, on doit se faire accepter tel qu'on est. Je trouve que c'est une belle preuve d'amitié que les deux soient en fusionnel comme ça, inséparables, voilà, malgré leur différence de catégorie sociale. Voilà, merci.
Maintenant, nous allons passer à la discussion sur la semaine de la santé mentale.
Alors, juste avant, pour préciser, il y a des gens qui pourraient plus s'exprimer. On a 15 minutes de retard sur le programme. C'est aussi pour ça qu'on speed. Donc la discussion sur la semaine d'information sur la santé mentale.
C'est à Lille.
Bruno, vous connaissez un peu la semaine d'information?
Il y aura deux phases. Je vais prendre mon papier quand même, parce que il faut que je prenne mon papier. Donc parler 2 secondes avant que je sorte le papier. Parler 2 secondes de.
D'accord. Donc la semaine d'information sur la santé mentale, c'est quelque chose qui existe depuis 1990, et ça a lieu toutes les troisièmes semaines du mois de mars, et c'est un temps fort d'information et de il y a information, il y a rassemblement, il y a des rassemblements, il y a plusieurs acteurs qui se réunissent, des acteurs de la santé mentale qui se réunissent pour informer le grand public, changer les représentations collectives. Et il y a des multiples partenaires, il y a par exemple l'association Lillart. Alors moi j'aimerais connaître, pour lancer la discussion, qu'est-ce que c'est pour vous en tant qu'usager, malheureusement c'est le terme qu'on a, c'est des patients, des usagers, qu'est-ce que c'est pour vous que la santé mentale?
Moi je vais sortir hors des sentiers battus en disant que la santé mentale, c'est par exemple faire tout en sorte pour devenir moins con, et devenir moins con, c'est réussir à se désaliéner par rapport à tout ce qui fait norme, qui nous abrutit la tête, et par rapport à ça, la psychiatrie en fait partie, mais il n'y a pas que la psychiatrie. Ouais, et c'est pour ça que les psychiatres travaillent de plus en plus avec les artistes. Voilà.
Roger Lucien, je me tourne vers toi, j'ai envie qu'on fasse un tour de table où tout le monde parle. Qu'est-ce que c'est pour toi que la santé mentale, ou peut-être même la bonne santé mentale, qui sait ?
Ben moi, je pense que la santé mentale, c'est avant tout dans la tête, bien sûr. Pour avoir une bonne santé mentale, je pense que il faut essayer de se rendre utile, comme venir participer à cet atelier thérapeutique des entonnoirs, par exemple, et faire autre chose, se rendre utile pour les autres aussi, voilà.
Et quel est l'intérêt de se rendre utile ? Comment on peut se rendre utile ? Comment on peut être efficace ?
Ben déjà, c'est le fait de faire la radio, déjà c'est se rendre utile. Il y a des personnes qui nous écoutent depuis longtemps, depuis qu'on a commencé cette émission, depuis qu'on a commencé la radio. Donc avoir un travail, c'est se rendre utile, aider les collectivités. Ben voilà, pour moi c'est ça.
Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire un temps d'information sur la santé mentale, comme voilà, cette semaine d'information sur la santé mentale, Margot?
Oui, il faut.
Alors pourquoi ?
Ben, pour moi, c'est très important. Moi, on parle de nous, en connaissance de cause, donc faut que les gens entendent et écoutent ça.
En fait, le problème de la santé mentale, c'est que c'est très tabou, et quand on est diagnostiqué, quand le médecin fait tomber le couperet, mais enfin dit voilà, vous souffrez d'une maladie comme ça, c'est comme ça, et il faut pas dénier, faire le déni. Au début, il y a déni. Obligatoirement, on dit c'est pas vrai, je suis pas malade, je suis pas fou. Mais on est vite rattrapé, parce que sans molécules et sans activité, eh ben on va pas loin, c'est tout. Et il faut l'accepter, c'est comme ça.
Moi, je pense que en santé mentale, il faut être connu et reconnu par la société, parce qu'on est un petit peu les laissés pour compte de la société. Il faut donc il faut s'exprimer, il faut se battre, parce que c'est une lutte. On sait que depuis tout temps, les hommes se sont battus pour leurs idées. Donc, il faut aller jusqu'au bout de nos idées et lutter tous ensemble et pour valoriser un petit peu notre image de marque, qui est un petit peu bafouée dans les médias par certaines circonstances, par certaines personnes. Et puis voilà, quoi.
Juste pour préciser, je donne l'ordre de passage parce qu'il y a beaucoup d'intervenants. Bruno, François, moi, Jérôme, Salima. Ça marche?
Je vais être très rapide en disant que je ne crois pas à la chronicité de la maladie, et si je suis chronique, malade chronique, ben je suis content d'être malade chronique, en disant que à cause de mon vécu, de mon délire, mes structures mentales sont différentes des autres, entre guillemets, ben je demande le droit à la différence, et qu'on me fiche la paix si j'emmène personne, c'est tout, et si c'est ça ma maladie, et si c'est m'emmerde, ben j'emmènerai les gens aussi, voilà.
Non, moi je voulais dire la même chose que Tard, en fait, qu'il était important que qui est cette semaine d'information sur la santé mentale, justement pour donner plus de lisibilité à nos maladies, plus de lisibilité, mais plus de lisibilité moins dans le négatif que les flashs qu'on a aux informations, etc., où là on est pas mal stigmatisé. Justement, il faut avoir de la lisibilité sur les maladies pour justement déstigmatiser et changer ce regard qu'on peut avoir sur les problèmes psychiques.
Alors moi maintenant, je vais parler de la santé mentale. Qu'est-ce que c'est l'homme normal, l'homme anormal d'après Pierre Dacroux? L'homme anormal, c'est qui ouvre tout grand son corps et son esprit. C'est un homme qui fait attention à ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il sent, aux odeurs, au goût des aliments, qui fait attention à son mental, sa pensée, qu'on se parle nous-mêmes, ses visions. C'est un homme également qui ouvre tout grand son corps. Par exemple, il prend conscience du réflexe paupéral, cligner des yeux et sentir sa respiration. C'est ça le meilleur de tous les exercices mentaux qui existent. D'après Pierre Dacroux, c'est le concept, recept et percept. C'est ouvrir tout grand son corps et son esprit. C'est ça la santé mentale d'après Pierre Dacroux.
Moi, je pense que le plus dur dans la santé mentale, c'est quand on est, entre guillemets, normal, qu'on n'a pas de problème de santé mentale, et qu'un jour, on fait, ce qui a été mon cas, on fait une bouffée délirante aiguë, on se retrouve hospitalisé dans un hôpital, et que là, on nous diagnostique une maladie mentale. Ça semble anodin, mais le truc, c'est que la représentation stigmatisante qu'on a en tant que personne normale vers les fous, les anormaux, quand on devient soi-même malade, eh ben c'est tout le poids de cette représentation qui s'abat sur nos épaules, qui s'abat dans notre esprit et qui détruit toute la représentation que nous on avait personnellement. Et moi, ça m'a pris des années pour me reconstruire. Et c'est vraiment le poids du déterminisme, de la représentation dans l'inconscient collectif à laquelle on est contaminé, sans même y faire exprès. Et on s'identifie à cette représentation stigmatisante. Et c'est ça, je pense, le plus dangereux dans la maladie mentale, c'est d'être convaincu que on est une maladie et que quand il y a la maladie, en dessous, il n'y a plus rien. Il y a que la maladie et qu'on n'est pas une personne. Et ça, je pense que c'est vraiment, au-delà du dysfonctionnement de l'esprit, c'est un des troubles associés à ce diagnostic qui est difficile à battre. Mais je voudrais être optimiste pour les gens qui seraient malades. C'est surmontable.
Mohamed ?
Oui, pour moi, santé mentale, c'est-à-dire que ça arrive pas à des gens qui ont des problèmes, parce que, par exemple, personne n'est à l'abri, par exemple, d'une personne proche décédée, et suite à ça, on peut avoir des séquelles par rapport au mort qui est mort. Mais après, on peut, par exemple, être profondément choqué et ensuite, je veux dire qu'il y a beaucoup de choses, il y a des tas de choses que l'être est bien conscient de soi et tout. Et après, par un petit pas, il peut perdre son sang-froid, il peut être dépressif et etc.
Alors moi, je suis comme Pierre Dracovici, il dit, je viens tout grand mon corps et mon esprit. C'est pour ça que je bois pas, que je fume pas, que je mange pas de trop, que je mange pas de yacht, que je mange pas de sauce, que Dieu l'a magaré, j'ai une volonté de faire. C'est ça, c'est ouvrir tout grand son corps et son esprit, pour avoir une volonté de faire et de mettre de soi.
Florent.
Moi, ce que j'ai à dire, c'est que, à un moment donné, j'ai eu l'impression de sortir de la conscience collective, et à juste titre, parce que la société me faisait chier, parce que j'ai l'impression de voir des macros partout, qui dirigeaient le monde. Bah, en définitive, j'avais raison. Dans mon délire, j'avais raison. Et que c'est pour ça que j'ai appris à avoir des idées féministes, et que maintenant, le féminisme est à la mode, et c'est pas pour rien. Voilà.
Oui, comme tu disais, Mohamed, personne n'est à l'abri de la maladie. Ça peut atteindre à tout le monde, que ce soit, les haut placés ou les gens normaux, enfin comme nous quoi. C'est vrai que quand on tombe malade et qu'on arrive dans un hôpital et qu'on se demande ce qu'on fait là et que on voit les gens, enfin ceux qui nous entourent, les patients avec leur pathologie, comme tu as dit, j'ai bien entendu ce que tu disais. Tu disais que là, moi je suis tombée de haut, mais bon, je me suis ressaisie avec, grâce aux psychiatres et aux infirmières, aux infirmiers. Mais si j'avais pas non plus la volonté et la force d'esprit, je pense que j'aurais jamais été ce que je suis aujourd'hui.
Jérôme, en fait, toi, quand on arrive en psychiatrie, on arrive dans une autre planète. Carrément, on arrive dans un milieu fermé, clos. C'est terrible. C'est presque. On le vit presque comme si on était en prison. Moi, j'ai connu les vieux services de psychiatrie, mais vraiment les vieux. Hein. C'est un monde dur et,
oui,
et terrible. Et heureusement, il y a les molécules et il y a les activités au CATTP.
Et les entonnoirs, c'est une façon de nous permettre de s'exprimer ouvertement. Et ça aide beaucoup, apparemment.
Moi, je pense que il s'agit pas d'avoir une information d'un psychiatre ou autre. Je pense que ce genre de semaine, c'est fait pour donner la parole à toute personne sensibilisée. Je pense que les leçons, on n'a pas à les avoir de quiconque. Je pense que vous avez aussi des leçons à donner, mais tout le monde a des leçons, a une information à donner. Voilà.
Et moi, je pense que les idées reçues faciles à penser, j'ai envie de dire, sont fausses parce que la vie, le réel, la maladie, la normalité, le diagnostic, la guérison, c'est des choses complexes. Et je pense qu'on peut pas les réduire avec lui, c'est un fou, lui, c'est un mec bien, lui, c'est un mec normal. Je pense qu'à un moment, la normalité, c'est une richesse.
Et moi, je pense, pour conclure, que le symbole de cette journée, c'est en fait, c'est la prise de conscience universelle, c'est de faire parler de soi et d'être entendu par le plus grand nombre et de bousculer un petit peu les consciences, la conscience collective. Et d'être entendu, quoi. D'être entendu. Exactement. Et de donner la parole à ceux qui en ont le plus besoin, quoi. C'est-à-dire les malades, ouais. Directement.
Et il y a une maladie mentale. Et il y a une maladie mentale qui s'appelle la connerie. Et quand on guérit de la connerie, ben c'est très agréable.
Et je tiens à dire qu'il y a aussi des dérives de médecins psychiatres qui prescrivent des Temesta plus de 12 semaines, alors que sur la notice, il est écrit qu'il faut pas dépasser 12 semaines.
Bon, nous allons conclure.
Non, 12 semaines.
Et les frites à l'hôpital sont dégueulasses.
Allez.
Les frites.
Chers auditeurs, chères auditrices.
Merci. Merci. Et merci. Puis, au revoir, à la semaine prochaine.
Au revoir. Salut, bye.
Vous savez, les entonnoirs, ce qu'on trouve dans les tornades.
Et écoutez les entonnoirs en podcast sur le blog des entonnoirs http://lesentonnoirs.over-blog.fr.